Philippe Narasiguin, bonjour.
Bonjour Didier.
Alors, vous êtes économiste à La Réunion. On a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelque temps pour faire justement de la pédagogie sur l'économie. Il y en a souvent besoin et j'avais envie de vous contacter aujourd'hui justement pour en faire au sujet de la Réunion. On parle de fièvre, on a vu les incidents, on a vu les images, on essaye de comprendre ce qui se passe à La Réunion. Vous qui êtes sur place et qui êtes économiste, est-ce que vous attendiez qu'un jour on en arrive là à La Réunion?
Oui, naturellement, hein. C'est ce qu'on voit de plus en plus se développer aussi bien dans les radios libres, les propos des personnes, et aussi sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire une chose, c'est que par rapport à 30 ans, il y a 30 ans, la sociologie des personnes qui manifestent est totalement différente. À savoir que si on prend uniquement comme référence, comme point de départ, les 17 et 18 novembre, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une révolte fiscale en réalité des personnes, classe moyenne, publique, privés hein, qui manifestent, et aussi énormément de personnes qui ne peuvent plus payer d'impôts, de taxes, notamment les patrons de TPE-PME, qui n'arrivent même plus à payer leurs cotisations sociales depuis fort longtemps, où là, effectivement, c'est un gros problème, les dettes sociales, sans compter évidemment les problèmes qu'on a avec les banques quand les entreprises sont endettées. Donc je dirais que sur le plan strictement des violences, si on ramène les choses uniquement au phénomène des casseurs, qui n'est pas évidemment le fond du problème. C'est effectivement comparable à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Par contre, au niveau de la sociologie des gens qui protestent, je dirais qu'elle est largement différente. Voilà.
On a beaucoup parlé, effectivement, bien entendu, de l'essence, hein, du prix de l'essence. Ce que vous dites, c'est que ça a été presque un déclencheur, mais qu'il y avait
Oui.
il y avait d'autres choses qui sont venues effectivement impacter et qui ont fait cette révolte fiscale aujourd'hui dont on parle.
Oui, bien sûr, dans la mesure où le prix de l'essence, pour moi, ça a été finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein. Bien évidemment, c'est beaucoup plus la situation des personnes qui travaillent, qui paient des impôts, bien souvent, qui dirigent des entreprises, entrepreneurs individuels, patrons de PME, qui, là, est critique. Et ces personnes, pour la première fois, moi, je connais des gens qui ne font partie d'aucun syndicat et qui, pour la première fois, sont partis donc dans ce courant appelé Gilets jaunes, manifester, donc. Contre tous ces problèmes. D'ailleurs, on le voit, les propos qui sont tenus aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les radios libres, il y a énormément de gens qui téléphonent en disant, par exemple, des femmes d'artisans qui disent, nous, on paye tout et on n'a rien. Par exemple, autre chose, nous, on avait les allocations familiales auparavant, il y a plusieurs enfants, mon mari et moi, on a plusieurs enfants, et aujourd'hui, on n'a pas les. Maintenant, il y a plus. À l'époque, il y avait un. Et pas de plafond pour les allocations familiales. Et maintenant, nous, ben finalement, comme ça a été plafonné, on n'a plus droit aux allocations familiales et nous sommes les personnes qui payons tout. Et au fond, l'accusation indirecte, au fond, c'est ben, il y a aussi des personnes qui ne paient rien. Donc, en fait, en gros, ça, on l'entend très fréquemment depuis 2 ans, 3 ans, parce que la parole, à ce niveau-là, s'est libérée. Alors que ce n'était pas la même situation, si on peut dire, la même sociologie, en tout cas, il y a 30 ans, hein, au niveau des personnes. Voilà.
Ça veut peut-être dire qu'il faut s'interroger et avoir plus je dirais, une recherche sur ce que c'est que la classe moyenne aujourd'hui. Quand on parle de classe moyenne, il y a cette classe moyenne que vous avez évoquée, celle qui était dans la rue, qui était dehors, mais qui peut être des patrons de TPE ou de petites entreprises. Et dans la classe moyenne, il y a aussi, voilà, elle est diverse. Mais là, ce qu'on a, c'est vraiment cette classe moyenne qui travaille, qui aujourd'hui a ce sujet de charge.
Tout à fait. Dans la mesure où vous n'êtes pas sans ignorer, ce qui aggrave encore le problème, qu'en France, on a un record en matière de prélèvement de charges et de taxes, ce qui pèse sur le taux de marge des entreprises. Hein. Je vous rappelle qu'on a un taux de marge extrêmement faible en France, de l'ordre de 22-25% maximum d'ailleurs en moyenne depuis plus de 30 ans déjà. Et ce qui fait que les entreprises sont surendettées, n'ont pas les moyens d'employer des gens. Beaucoup de chefs d'entreprise m'ont confié qu'eux voulaient employer des gens, des jeunes notamment, mais que ça coûtait excessivement cher, pas seulement à cause des cotisations sociales sur salaire, mais avec l'ensemble des taxes qu'il faut payer. Parce que je rappelle souvent que le débat, c'est toujours, oui, les cotisations, les charges sociales, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'ensemble, évidemment, des impôts et taxes qui sont payés par les entreprises. Il n'y a qu'à voir, tout simplement, les dettes sociales des entreprises qui ne sont pas payées au niveau des organismes sociaux pour s'en rendre compte. Donc, effectivement, on a un problème d'absorption de toute une partie des jeunes qualifiés ou non qualifiés sur le marché du travail à La Réunion, parce que les entreprises ne peuvent pas employer les gens, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne le peuvent pas, contrairement à ce qui se passe notamment dans les pays d'Europe du Nord, où là, les entreprises ont des marges, ont des taux de marge très importants, dégageant de la trésorerie, indépendante quasiment des banques, et pouvant se développer. Et on a le cas de tous ces pays d'Europe du Nord qui sont des champions industriels. Par rapport à nous, on subit depuis pas mal d'années une désindustrialisation très, très importante. On a perdu depuis 30 ans, un peu plus, sans doute 3 millions d'emplois industriels. Je n'ai pas fait le calcul. Mais il faut savoir qu'un emploi industriel crée 3 emplois indirects. Donc voilà.
C'est particulièrement important. Alors, ça veut dire finalement que ce modèle social français, qu'il soit en métropole ou à La Réunion, aujourd'hui atteint ses limites ?
Oui. Ah oui, bah, de toute façon, on le savait depuis très longtemps qu'on ne pouvait pas prélever en quelque sorte ce qu'on appelle l'économie marchande pour financer l'économie non marchande. Il ne s'agit pas d'accuser les personnes, bien évidemment, qui vivent malheureusement, je dirais, hein, parce que c'est malgré eux finalement de minima sociaux, mais qui n'arrivent pas justement à cause d'un système économique qui marche sur la tête en France, qui n'arrivent pas à trouver des emplois. Après, il y a aussi le système de la formation, etc. Donc moi, je dirais que le système économique de La Réunion, finalement, quand on regarde les performances économiques de La Réunion, elles sont relativement bonnes en matière agricole, en matière de services, en matière d'esprit d'entrepreneuriat à La Réunion. Il y a énormément de création d'entreprises. Donc là-dessus, je dirais que les Réunionnais font des efforts qu'il faut louer, qu'il faut bien sûr mettre en exergue. Mais cet esprit d'entreprise qu'il y a n'est pas aidé, les entreprises ne sont pas aidées par la stratégie économique des différents gouvernements depuis un peu plus de 30 ans. Et ça, c'est dommage parce qu'on a la situation, et je suis tout à fait d'accord avec vous pour pouvoir dire que ce n'est pas spécifiquement au niveau de La Réunion. Comme c'est plus petit, évidemment, c'est les blocages ont un retentissement au niveau de toute l'île, hein, naturellement. Mais c'est un problème français.
Hein, voilà. On aura de l'impact, comme d'ailleurs ici en métropole, de ce qui se passe à La Réunion pour le tourisme, on imagine. Et puis vous êtes en pleine campagne sucrière, donc c'est pas neutre.
C'est ça. On aura un impact extrêmement négatif pour les hôtels, dans les hôtels, dans tout ce qui est hôtellerie, que ce soit les tables d'hôtes, les chambres d'hôtes, les hôtels, quelle que soit la catégorie d'étoiles, de une étoile à quatre étoiles. On a donc une chute du chiffre d'affaires qui est là, qui va s'approfondir en quelque sorte, qui va s'aggraver, hein, et des problèmes de trésorerie considérables pour les entreprises. On est en pleine campagne sucrière. La campagne sucrière ne peut pas se dérouler déjà. La production de canne n'est pas, d'après ce que j'ai pu comprendre, excellente. Et ces entrepreneurs agricoles, ben, aujourd'hui, demandent à ce qu'on puisse recommencer à travailler dans de bonnes conditions, à ce que les approvisionnements puissent être faits, que les entreprises puissent à nouveau avoir de l'activité, payer leurs salariés, payer leurs cotisations, etc. Donc voilà, ce n'est pas seulement un problème de La Réunion, même si, évidemment, le retentissement est beaucoup plus important lorsqu'il y a des casseurs. Hein. Oui. Mais il ne faut pas oublier que si on accepte cette question des casseurs, la crise est profonde et elle est économique. Elle a ses racines dans le domaine économique, et si on en juge par les gens qui ont manifesté notamment, comme je le disais précédemment. Voilà.
Alors, le mot de la fin, justement, parce que quand on regarde bien, pas que la France, ni effectivement, si on va aux États-Unis, si on va dans d'autres pays, on se dit que la crise financière de 2007-2008, qu'on a largement suivi sur labourseetlavie.com, cette crise financière, finalement, a généré dans beaucoup d'endroits dans le monde cette crise pour les classes moyennes. Finalement, on l'a vu en Angleterre, ça a conduit au Brexit. On se pose effectivement cette question-là du lien entre la crise financière et économique et maintenant sociale.
Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a la financiarisation de l'économie qui a été négative. Par contre, il y a beaucoup de pays, notamment je parlais des pays d'Europe du Nord, qui eux, non seulement ont conservé leur outil industriel, mais l'ont développé. Ce qui explique que tous les pays, Danemark, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande, etc., ce sont des pays où il y a le plein emploi avec des niveaux de revenus qui sont bons. Nous, effectivement, on a eu à la fois les conséquences de la financiarisation des économies, hein, avec un déclin de l'industrie et de toutes les activités productives, si je puis dire. Hein. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas... c'est la stratégie économique qu'il faut repenser en France. et pas simplement pour à La Réunion. Hein, voilà ce que je dis. Je dirais Didier.
Voilà, on a un vrai sujet de fond. Merci Philippe. Et je pense que pour terminer, vous préparez un nouvel ouvrage. Vous en avez fait sur la pédagogie économique. Vous travaillez sur quel sujet?
Oui, là, je travaille justement sur les sujets de Monnaie Banque. Un nouvel ouvrage pour l'année prochaine, Monnaie Banque, financement de l'économie, qui va paraître l'année prochaine. On aura l'occasion d'en rediscuter quand je passerai à Paris ou alors carrément avec un Skype. Hein, on fera une petite émission là-dessus. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour justement dire aux chefs d'entreprise d'écrire aux banques pour obtenir un peu plus de facilité de caisse ou de découvert bancaire dans la mesure où là, la trésorerie est impactée. Donc, ne pas avoir peur d'écrire et de décrire sa situation par lettre. Hein, c'est un petit peu le conseil que je voudrais donner aux entreprises qui subissent des problèmes graves de trésorerie en ce moment. Et je vois que vous continuez brillamment à faire vos émissions à la Bourse et la Vie avec, combien vous me dites, 2300, 2400 chefs d'entreprise interrogés?
Voilà, je crois qu'on arrive à 2500 vidéos et je suis assez fier de vous dire qu'on arrive à la première base de données, puisque c'est important, on parle beaucoup de base de data, de base de données en français aujourd'hui. C'est la première base de données sur les dirigeants de sociétés cotées à la Bourse de Paris en vidéo. Et pour l'anecdote, Philippe, j'ai eu un investisseur une fois qui était basé donc sur l'île d'en face, à l'île Maurice, et qui dit… Qu'il était venu en France, je l'ai rencontré, il m'a dit « Monsieur Testo, je suis venu à cause de vous ici, on était sur un projet de production vidéo, et il m'a dit « J'ai regardé une première vidéo d'une société, la deuxième, et à la troisième, j'ai décidé d'investir. » Je me suis dit « Bon, ça veut dire que ce type de contenu, où on parle beaucoup de stratégie d'entreprise, hein, bien sûr, on parle des chiffres, mais pas seulement, dans la durée, ça peut intéresser voyez, des gens qui sont à plus de 10 000 km de chez nous. » Donc ça, voilà, ça mérite qu'on continue et que ce point com, justement, soit visible dans le monde entier. On a parfois des clics d'Australie, ça paraît hallucinant, mais voilà, c'est passionnant.
Je vous souhaite de continuer, puis beaucoup de succès dans votre entreprise, dans la Bourse et la Vie. Hein, c'est comme ça que votre entreprise s'appelle. Et puis, beaucoup d'interviews. Peut-être aussi de venir interroger les chefs d'entreprise à La Réunion ou même à l'île Maurice. Voilà.
Avec plaisir. Merci, Philippe. À bientôt.
Et à bientôt, Didier. Au revoir.